utilisez le storytelling pour communiquer l'histoire de votre école. Salut à toi, bienvenue sur Leader dans l'enseignement catholique, le podcast qui t'aide à mieux comprendre ton école, ton collège ou ton lycée. Prêt ? Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien derrière tes écouteurs ou tes enceintes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Leader dans l'enseignement catholique. Pour rappel, la semaine dernière, j'ai tenté d'expliquer ce qu'est le storytelling. Et aujourd'hui, je souhaite réfléchir à cet art de raconter des histoires dans le contexte éducatif et puis surtout l'impact que ça peut avoir dans ton travail. Et pour en parler, j'ai fait appel à un spécialiste, à Amaru Kaznav, un auteur et réalisateur reconnu pour son travail. Eh bien, ensemble, on va discuter de la manière dont le storytelling peut transformer la façon de communiquer l'histoire et les valeurs de nos établissements, comment on peut utiliser cette forme pour connecter, inspirer, éduquer. Et bien sûr, Amaru va nous partager son expertise avec des exemples concrets. Et bien, c'est parti, préparons-nous à plonger dans ce monde où les mots et les images s'unissent pour créer un impact durable. Alors, bonjour Amaru.
Bonjour François. C'est ça, Amaru.
Alors, j'ai toujours un doute, oui, Amaru. Voilà.
C'est ça, oui, tout à fait. Ça s'écrit qu'en U, mais ça se prononce U.
Voilà. Alors, comment vas-tu aujourd'hui ?
Eh bien, fort bien, fort bien. Écoute, c'est une belle journée, donc l'année commence bien, donc tout va bien.
Bon, alors, pour commencer, pour les auditeurs, peux-tu nous dire comment on devient Amaru Kaznav ?
Alors, bah, il faut avoir des parents déjà. et puis après, voilà, ça se fait un peu comme ça. Non, mais peut-être un petit mot ouais, sur mon parcours. En fait, j'ai...
Ah, il y a une coupure.
J'ai fait un BTS audiovisuel.
Et alors, il y a une petite coupure.
Il y a une petite coupure, excusez-moi. Après mon bac, j'ai fait un BTS audiovisuel. Et après ce BTS audiovisuel, je suis parti travailler dans la télé, enfin pour la télévision, en fait. J'ai travaillé 10 ans à TF1. Donc, je travaillais pour l'information et les sports principalement. Et donc, ça m'a donné une solide expérience, on va dire, pour comprendre un petit peu les rouages des médias, savoir comment on crée une émission de télé. De son écriture, on va dire, jusqu'à sa diffusion, savoir aussi faire un peu un bilan de nouveautés, de créer des nouveaux contenus, etc. Donc moi, je suis quand même pas d'une, enfin, je suis d'une génération un peu supérieure. Enfin, je veux dire, j'ai 40 ans, je suis pas un tout jeune, et donc il n'y avait pas encore les réseaux sociaux ni YouTube quand je suis rentré à TF1. C'est arrivé après. Et disons que ces réseaux sociaux ont permis de diffuser du contenu plus facilement, chose que on pouvait pas faire en fait quand je suis rentré à TF1. Et donc moi, ça m'a permis de créer du contenu, de le diffuser facilement sur Internet. Donc avec des amis, on a commencé à créer du contenu pour parler de notre foi dans les années 2008-2010. Et puis avec certaines vidéos en fait qui ont très bien marché sur Internet. Et qui ont fait que, bah, voilà, moi, je me suis fait un petit réseau au sein de l'Église et qui m'a valu ensuite de pouvoir travailler dans la communication de l'Église. Et aujourd'hui, en fait, j'ai monté ma société pour pouvoir accompagner justement tous les acteurs, qu'ils soient de l'Église ou pas de l'Église, dans la communication audiovisuelle spécifiquement. Et donc, je crée des vidéos pour communiquer sur divers sujets.
Et alors, tu as créé, c'est comme ça que je t'ai découvert en fait, tu as créé un site qui s'appelle, j'ai oublié.
Jesus Box. Effectivement. Voilà. Donc, ça, c'était. Jesus Box est né un petit peu d'une frustration que j'avais en créant la boîte, parce que je pense que naïvement, Il y a 10 ans, quand j'ai créé Revival, je pensais que l'Église allait venir me chercher pour créer du contenu, pour parler de la foi de façon un peu décalée, chose qu'on faisait nous sur Internet. Mais non, au final, l'Église, c'est une institution qui a des besoins institutionnels, hein, donc elle a des besoins en communication. Et donc, on a, enfin voilà, principalement sur le denier et les vocations, on va dire. Et donc, Jesus Box, c'était un peu une réponse que je voulais apporter pour parler de façon un peu plus décomplexée de ma foi, avec des petits programmes pédagogiques et ludiques pour que ce soit facile d'accès, que ça parle aux jeunes, en fait, parce que souvent on a aussi un peu cette tendance à se dire entre adultes, oui, on va, voilà, c'est ça qu'on aimerait donner comme information, sans penser que derrière, en fait, il y a une génération qui a d'autres codes et qui est habituée, en fait, à avoir beaucoup, beaucoup de contenu et qu'il faut plutôt partir, en fait, de ce que eux regardent pour essayer de leur faire passer des messages parfois peut-être plus simples, on va dire, ou en tout cas qui vont permettre un accompagnement, en tout cas. Et donc c'est ce qu'on a fait, en fait, avec Jujubox. Donc voilà, on a créé un peu de contenu que vous pouvez trouver sur la plateforme.
Ok. Et site qui est toujours d'actualité, hein, enfin qui fonctionne toujours.
Exactement, ouais, il marche toujours.
Alors donc moi je réfléchis depuis un petit moment, mais j'ai commencé une séquence sur le storytelling. Et en quoi pour toi le storytelling, c'est un outil efficace pour partager peut-être l'histoire de l'établissement ou ses valeurs?
En fait, le storytelling, c'est un outil, en fait, pour raconter des histoires, en fait, qui est beaucoup utilisé en publicité, qui a été utilisé aussi en politique. Je pense que on le connaît un peu pour ça, l'outil storytelling dans la communication politique et publicitaire aux États-Unis. Mais en fait, je pense que c'est un dérivé de notre culture orale, en fait, en tant qu'humain, où on avait besoin de se raconter des histoires au coin du feu pour s'ancrer, je dirais, socialement et partager l'histoire de la tribu, en fait, ce qui nous constitue en tant que tribu, en tant que groupe. Et donc, à travers les histoires un peu mythiques qui ont constitué le groupe, eh bien, on réussit à fédérer les gens autour de ce narratif-là, quoi. Et donc, aujourd'hui, réussir à créer des histoires qui vont se structurer d'une certaine manière, ben, je pense qu'elles permettent de réveiller en nous, en fait, c'est un peu comme ça qu'on est constitué, de réveiller en nous cet appel et ce sens du groupe, de la tribu. Donc, je pense que c'est une manière, en fait, pour fédérer les gens autour d'une certaine valeur. Après, c'est pas magique, c'est-à-dire que c'est pas parce que tout d'un coup vous allez réfléchir à la manière dont vous pouvez structurer des narrations que vous allez pouvoir raconter n'importe quelle histoire. Je pense que une bonne structure narrative, elle est vraiment au service d'une vision, en fait. Et donc, la première des choses, c'est d'essayer de comprendre en quoi, quelle est la vision, soit dans l'établissement. Par exemple, un établissement scolaire, quelle est la vision? D'essayer de l'articuler autour de mots qui sont simples, autour peut-être de vocabulaire, de verbes d'action. Une vision, ce n'est pas un texte de 3 pages, hein. Une vision, c'est un paragraphe, c'est une phrase. Et si on réussit à résumer ça, derrière, je pense que naturellement et assez facilement, on va pouvoir inscrire un narratif qui va pouvoir se décliner, hein, sous la forme de plusieurs histoires. Et ça permettrait aux gens de bien comprendre. Ça permet, en fait, aux gens de bien comprendre la vision que vous portez.
Alors, même au-delà, là on est vraiment sur la vision, mais moi j'ai un exemple. Il y a eu une période où on était obligé de filtrer les entrées à cause de Vigipirate, alerte attentat. Et donc le premier soir, donc, on a interdit les parents de rentrer dans l'école et on faisait des allers-retours entre la garderie et le portail pour ramener les enfants. Et c'était un peu le bazar parce que les enfants ne répondaient pas quand on les appelait, ou alors on les appelait, ils arrivaient puis repartaient. Enfin bon, c'était un peu le bazar. Et pour expliquer ce bazar, j'ai juste raconté ce qui s'est passé. Et en fait, les gens ont beaucoup apprécié parce qu'en fait, ça les a fait rire déjà. Et c'est très bien passé. Enfin voilà, ils ont compris aussi dans quelle situation on était placé. Alors, tu parles de structure, de texte, d'histoire, etc. Est-ce qu'il y a des schémas, j'allais dire, tout bêtes? Moi, j'ai tendance à conseiller, vous prenez un conte pour enfants et vous analysez la structure et puis vous pouvez la reprendre. Mais peut-être que tu fais autrement.
En fait, bon, alors c'est vrai que bon, j'ai un peu mis mon nez dans des bouquins un peu d'analyse et de récits et de manière en fait dont on apprend à écrire ces histoires, mais c'est normal parce que c'est mon métier quoi, donc forcément. Après, ben, je pense que tous les bons blockbusters en fait, enfin, je veux dire, on connaît la saga Harry Potter, on connaît la saga Star Wars. Toutes ces sagas-là, mais le Seigneur des Anneaux, enfin, je veux dire, ils sont structurés un petit peu de la même façon. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir un héros qui est appelé à l'aventure par le biais d'un autre personnage et puis qui va monter des obstacles jusqu'à se confronter à une contre-vérité de ce que lui croyait, puis accéder à une révélation qui va lui permettre de comprendre. Quelque chose de global sur lui, sur la vie, et de pouvoir rentrer chez lui pour le transmettre. Enfin, c'est un peu ce schéma global qu'on peut avoir. L'idée, c'est le héros, c'est le spectateur, en fait, hein. C'est-à-dire que quand on positionne, et c'est pour ça que je trouve que votre exemple, il est bon de pouvoir dire, bah, tiens, plutôt que d'expliquer les règles qu'on doit mettre en place et qui sont souvent assez rébarbatives, et puis le fait de raconter une bonne histoire permet aux gens de se projeter émotionnellement en fait dans ce qui est vécu et en fait en réveillant chez les gens ben, ces émotions de rire ensemble d'être captivé en fait tout d'un coup par un récit et puis de pouvoir se projeter en fait dans la situation tout bêtement on n'est pas là à lui dire et donc en fait maintenant on a mis en place un truc il faut plus faire ci il faut plus faire ça mais plutôt de lui dire ben voilà on vous raconte une histoire dans laquelle vous allez comprendre naturellement au fur et à mesure de l'histoire la raison de ces règles-là. Ça c'est toujours une bonne façon de faire.
Alors ça prend un petit peu plus de temps que de balancer des informations brutes, mais ça passe beaucoup, beaucoup mieux. Alors, est-ce que tu as des exemples spécifiques de projets où le storytelling a pu aider une institution ou un établissement dans sa communication?
Alors ouais, je pense qu'il y a pas mal d'exemples. Bon, je pense il y a beaucoup d'exemples qui vont être liés à des grandes marques. En fait, j'ai tendance à regarder beaucoup ce que font Nike ou des marques comme ça dans lesquelles en fait il y a pas mal de il y a pas mal de storytelling. Il y a une très belle vidéo si vous voulez aller voir qui s'appelle c'est PNG, c'est un énorme groupe qui possède plein de marques aux États-Unis, donc PPEG, si vous voulez taper sur YouTube. Et...
Ah, ça a coupé. On a une petite coupure,
Excusez-moi,
oui.
pardon, c'est mon casque qui n'a plus de batterie, donc je vais peut-être le débrancher prochainement. Et en fait, cette vidéo de PNG, elle s'appelle... elle s'appelle comment elle s'appelle? Elle s'appelle Thank you mom, c'est merci merci maman en anglais quoi, tout simplement. Et là en fait vous avez toute une histoire. L'idée c'est de c'est ça que je trouve assez génial, c'est que dans la vidéo raconte la manière dont plusieurs enfants font du sport d'hiver, du patinage, du ski, etc. Et puis en fait ils chutent à chaque fois, mais depuis qu'ils sont gamins. Et puis on voit leur maman qui les relève, qui les soigne, etc., qui prennent soin d'eux. Et il y a une rupture aux deux tiers de la vidéo où, en fait, on passe sur les Jeux Olympiques. Et tout d'un coup, en fait, les enfants sont devenus adultes et ils sont devenus champions. Et on comprend, là, dans les quelques secondes qui restent, que finalement, c'est parce qu'ils ont été soutenus par leur maman qu'ils ont réussi à devenir des champions. Elle est très, très émouvante, cette vidéo. Elle marche vraiment super bien, il n'y a aucune parole, elle marche à l'international. Donc ça c'est un super exemple. Après, des exemples un peu dans l'église, que nous on a, enfin dans l'église, il y en a probablement, j'en connais peut-être un petit peu moins, il faut aller chercher souvent chez des anglo-saxons qui sont, on va dire, un peu meilleurs que nous. Les Français, on a un peu ce cerveau latin qui consiste à vouloir beaucoup expliquer les choses qu'on fait, on est très pédagogue en fait en France, hein, on va vouloir vraiment... que les informations soient bien claires et on pense que quand les informations sont bien claires, après il n'y a plus de problème, mais on oublie un petit peu que c'est bien d'embarquer émotionnellement les gens parce que c'est un peu comme ça qu'ils vont aussi facilement un peu suivre les choses, quoi. Donc des églises comme HDB qui font bien le taf. Du côté peut-être de l'éducation, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais vu passer? Là, il y a rien qui vient comme ça. On a fait une vidéo, nous, pour la Fondation Jérôme Lejeune en 2015, qui était quand même basée vachement sur le storytelling. Vous pouvez taper sur Internet être différent, c'est normal. Je pense que, enfin voilà, je vous spoil pas la vidéo parce que voilà, il y a un petit twist de fin, donc allez la voir et ça vous donnera un bon exemple, je pense.
Super. Voilà. Non, mais c'est effectivement intéressant. Ouais. Je vous conseille aussi de regarder les publicités parce que ça donne beaucoup d'idées en fait. Et l'intérêt aussi des publicités, c'est que parce que si on s'attaque à faire un Star Wars, forcément, ça devient trop ambitieux. Mais faire une pub, ça dure 30 secondes. Et en 30 secondes, on fait passer énormément de choses et on ne s'en rend pas compte.
C'est vrai, une petite
Et
vidéo pour ça est très bien.
ouais. Et moi qui commence à essayer de faire des petites vidéos comme ça, finalement, 30 secondes, c'est pas si simple que ça à faire, au final. Parce qu'on a vite fait de dépasser les 30 secondes, mais si on veut rester dans le timing et trouver les bonnes images, c'est pas si simple que ça. Alors, si tu devais conseiller un établissement scolaire, une école par exemple, pour commencer à utiliser le storytelling, par où commencer? Est-ce qu'il y a des livres à lire? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter?
Bah, c'est vrai que il faut, pour moi, il faut commencer un peu par définir une bonne vision. C'est-à-dire, je pense qu'il faut revenir à la vision de l'établissement. Essayer de voir la raison ou les raisons pour lesquelles en fait un élève viendrait dans cet établissement, une raison pour laquelle les parents inscriraient cet enfant dans leur enfant dans l'établissement. Et il faut revenir à ça. C'est-à-dire, mais pour moi, c'est là où ça devient compliqué parce que une vision, écrire une vision, c'est pas forcément simple. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui avaient une vision claire dans leur tête, qui étaient capables de la déployer, qui ont fait vivre, et moi, ont fait vivre des choses extraordinaires, mais qui n'avaient pas forcément conscience ou de la vision qu'ils portaient et qui n'étaient pas capables de la formuler ou de la transmettre. Et je pense que réussir à se pencher sur ce qu'on fait vivre aux jeunes ou dans l'établissement, se questionner en fait, hein, peut-être aussi sur ce qu'on leur fait vivre ou ce qu'on souhaite leur faire vivre. Mais vous voyez, une vision, ça peut être grandir en liberté, par exemple. Ça peut être une vision, et après, elle va s'incarner et puis elle va se décliner dans des choses très concrètes. Mais au départ, ça va être un espèce de mantra comme ça, un petit peu global, qui peut s'incarner dans des propositions très différentes et puis justement ne pas s'incarner dans d'autres propositions puisqu'on va tout de suite voir que bah, là peut-être que c'est on leur laisse pas assez de liberté ou ça fait pas grandir etc. Et ensuite une fois qu'on a fait ça bah, je pense que on peut raconter une histoire. Alors sur une histoire d'établissement ça peut valoir le coup de partir sur ce qu'a vécu un élève sur ce qu'il imaginait en rentrant et sur ce qu'il a trouver en sortant. J'aime bien les premiers jours, les derniers jours aussi. C'est-à-dire, si vous êtes en collège, on pourrait imaginer les derniers jours d'un élève de troisième ou bien le dernier jour d'une prof qui se rappelle un petit peu de ce qu'elle a vécu elle-même et de ce qu'elle a pu essayer de transmettre et comment en fait cette vision s'est incarnée dans des exemples un peu concrets. Ça peut être enfin voilà, des situations. En tout cas, plus c'est simple et vraiment, mais c'est difficile de faire des choses simples. Donc, plus c'est simple, mieux c'est.
Ouais, ok, super. Ouais. Alors la vision de l'établissement, hein, pour ceux qui nous écoutent, ça correspond complètement et entièrement au projet d'établissement, au projet éducatif de l'établissement. Un projet éducatif d'établissement, c'est la colonne vertébrale de l'établissement qui va irriguer et nourrir tous les projets, tous les plans d'action, les projets pédagogiques, les projets pastoraux, etc. Donc effectivement, à partir de là, si on peut le résumer en une ou deux phrases, effectivement, ça aide complètement pour la suite. Toi, dans ta vision, tu parles beaucoup donc de ça, il y a un côté artistique, voilà. Est-ce que ce qui peut faire peur aussi, c'est-à-dire que pour un chef d'établissement, se dire oh là là, il va falloir que je fasse une vidéo ou même une affiche, etc. Est-ce que tu auras des petits conseils techniques justement parce qu'on a tous un téléphone dans sa poche, et est-ce qu'on peut démarrer juste avec un téléphone ou est-ce qu'il faut tout de suite s'embarquer sur du gros matériel?
Non, je sais que c'est souvent la question qu'on me pose, c'est de savoir un petit peu techniquement qu'est-ce qu'il faut acheter comme matériel, etc. Moi, je pense que surtout aujourd'hui, en fait, on n'est pas tellement, c'est pas tellement la question. Je fais beaucoup de vidéos que je tourne au smartphone, hein, c'est-à-dire même, enfin, je veux dire des commandes professionnelles, ben, on va les tourner au smartphone parce que c'est beaucoup plus pratique, c'est maniable, c'est souple. Et là, dans ces cas-là, la question, c'est pas tellement l'image, puisque l'image du smartphone elle est très bonne, mais c'est plutôt le son. Donc il y a des solutions, là encore, je veux dire, il y a des micros de très bonne qualité qui se branchent à un smartphone, qui sont pas si chers que ça, que moi j'utilise donc aussi. Et mais moi je dirais c'est la technique, elle est vraiment au service de l'écriture. Souvent j'en reviens toujours à dire, non. Pensez d'abord à écrire, écrire, parce que c'est vraiment la technique. Après c'est pas grave, prenez une photo, enfin en fait un truc, même si c'est il y a beaucoup de vidéos en fait qui sont très simples. Moi, j'ai un ami à moi qui a répondu à un concours de vidéos qui devait être tourné au smartphone. Et en fait, il a pris le parti pris de tourner vraiment avec un vieux smartphone. En plus, l'image était vraiment assez crade et c'était que des échanges en visio où vraiment avec la caméra, enfin, tout était justifié avec la caméra du téléphone. Et la vidéo était géniale, mais vraiment, elle était super drôle en plus. Et en fait, c'était juste l'écriture. Mais et puis, enfin, je pense qu'il faut prendre son parti des contraintes. C'est surtout, c'est ça aussi, quoi. C'est de se dire, bon, finalement, si vous n'avez pas beaucoup de matériel ou pas grand-chose, ben, vous pouvez quand même faire des trucs. Essayez de voir quelle solution se présente à vous et essayez de vous dire ça. Si votre seule caméra, je sais pas, c'est celle de votre ordinateur, ben, dites-vous, bah tiens, c'est la caméra de mon ordinateur, comment je l'utilise d'habitude? Est-ce que c'est par rapport à des visios? Est-ce que je me prends en selfie? Est-ce que du coup c'est l'ordinateur? Peut-être que je vais filmer l'ordinateur alors que je suis en cours ou que je suis en train de préparer les cours. Enfin, voilà, ça peut offrir des perspectives, en fait, comme ça, l'idée c'est de développer sa créativité autour des obstacles justement qui se présentent à nous.
Oui, la contrainte est souvent source d'imagination et de création, tout à fait.
Exactement.
Ok. Est-ce qu'il y aurait des choses que j'aurais oublié de te demander ou des projets que toi tu es en train de sur lesquels tu travailles et qui vont bientôt prochainement sortir?
Oh ben, comme on est sur un podcast, moi j'aurais tendance à recommander peut-être un podcast sur lequel nous on travaille actuellement, qui s'appelle Les Lueurs, qui peut, bah, justement, quand vous êtes dans une phase créative comme ça, vous inspirer. Voilà, vous tapez Les Lueurs et vous allez tomber donc en vidéo sur YouTube et puis en audio sur les chaînes de podcast sur lesquelles vous nous écoutez actuellement.
Super, moi je vais regarder ça de près. Alors, on arrive à la fin, j'ai quelques petites questions à te poser. Je vais te demander dans un premier temps de penser à un chef d'établissement qui t'a laissé un bon souvenir.
Est-ce que, alors pardon, est-ce que du coup ça a recoupé, donc
Ah, ça a recoupé. Donc,
j'ai.
est-ce que je vais te demander de penser à un chef d'établissement qui
Ouais.
t'a laissé un bon souvenir, et puis maintenant à un chef d'établissement qui t'a laissé un moins bon souvenir. Et est-ce que tu peux me dire maintenant quelles sont les qualités et les défauts d'un chef d'établissement?
C'est un peu terrible parce que je
Alors,
pense
on
que.
nomme pas forcément les gens, hein, on n'est pas obligé de nommer les gens.
Non, non, non. Ben non, mais je vais avoir beaucoup de mal à les nommer parce que je pense que vraiment. Je ne savais même pas qui était mon chef d'établissement, ni dans mon collège, ni dans mon lycée. Je ne sais même pas si je les ai croisés. Probablement que si, mais bon, ouais, je n'étais pas un garçon très scolaire non plus. Mais depuis, j'en ai recroisé pour le coup, pour avoir filmé en fait dans les établissements scolaires. Et je peux vous dire ce qui m'a marqué quand j'ai été amené à filmer. J'ai filmé un établissement scolaire dans lequel le chef d'établissement tous les matins disait bonjour à tous les élèves. Il allait leur serrer la main. Et j'ai été, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je sais qu'il n'a pas fait pour la caméra et que c'était voilà quelque chose de naturel. Et j'ai aimé cette posture parce que ça m'a, comment dire, ça m'a édifié. Je me suis mis à la place des élèves où je me suis dit bah finalement. Le fait d'arriver comme ça et qu'on nous salue en fait en arrivant, alors que bon, moi j'ai pu passer à mon collège à avoir pas beaucoup de copains, il n'y a pas forcément toujours des camarades à qui on peut dire bonjour. Le fait que le directeur lui-même dise spécifiquement bonjour le matin, c'est quelque chose qui m'a marqué.
Oui, c'est important, tout à fait. Est-ce que tu aurais une lecture à partager? Alors, pas forcément professionnelle, hein, c'est
Eh bien, ouais, alors il y a plusieurs choses auxquelles je pense. Là, je l'ai sous la main, il y a un truc, pardon, un livre de Chris Anderson qui s'appelle Parler en public, qui peut vous aider justement à structurer, à avoir des bonnes bases en fait pour structurer un récit. Ça, c'est vraiment important parce que le livre s'appelle Parler en public, mais je pense que c'est le fondateur des, vous savez, des vidéos TED,
Ah
des
oui, tout à
qu'on
fait,
voit.
oui. Ça
Et en
me disait
fait,
quelque chose.
ça a l'air comme ça simple de donner un discours de 15 minutes, mais en fait, c'est extrêmement préparé. Et justement, il y a tout un aspect storytelling qui est hyper important. Donc, Chris Anderson, ça me paraît très bien. Et puis, je sais pas pourquoi, mais enfin, si, je sais pourquoi, mais le livre de Fabien Olicard, Votre temps est infini, m'a beaucoup marqué aussi parce que ça m'a vachement aidé à me structurer, et à savoir un petit peu comment m'organiser. Et je pense que ça, c'est important aussi quand on part dans un travail un petit peu créatif.
Je l'ai lu aussi celui-là, oui. Très bien. Très bien. Eh ben, un grand merci en tout cas. Et où est-ce qu'on peut te retrouver dans le monde de l'Internet si on veut te contacter pour avoir plus d'informations?
Eh bien, vous pouvez aller sur le site internet de ma société qui s'appelle Revival Production, Revival Production au pluriel.fr. Et là-dessus, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que je mes dernières vidéos, on va dire, auquel le travail que j'aime bien faire.
Super. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Allez, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, c'est le cas. Et j'espère que cette conversation va vous inspirer, vous donner des idées pour partager des histoires de votre établissement scolaire. D'ailleurs, vous pouvez le faire aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, je t'invite aussi, si ce n'est pas encore fait, à t'inscrire sur ma lettre de diffusion et tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. Nous voici à la fin de cet épisode de Leader dans l'enseignement catholique. J'espère que les discussions et conseils partagés aujourd'hui t'ont été bénéfiques et t'inspireront dans ton quotidien. Assure-toi de t'abonner pour rester à jour avec tous nos futurs épisodes. Ton avis est essentiel pour l'évolution de ce podcast. Je t'invite donc à partager tes réflexions, tes questions ou même à proposer des thèmes que tu aimerais voir abordés lors de nos prochaines émissions. Tu peux exprimer tout cela en laissant un commentaire ou en me contactant directement. Si tu as trouvé de la valeur dans l'épisode du jour, partage-le avec d'autres chefs d'établissement et amis dans le domaine. Merci de m'avoir accordé de ton temps aujourd'hui et je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission enrichissante de Leader dans l'enseignement catholique. Prends soin de toi et à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.